La décision unilatérale prise par Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, d'accepter l'octroi du statut d'observateur à Israël au sein de l'Union africaine sans consulter les États membres a suscité une énorme controverse et indignation. La décision a soulevé de nombreuses questions quant aux objectifs de cette décision choquante. Les pays africains de demander si l'arrogance israélienne en Afrique a été oubliée du jour au lendemain. Quelle est la position des pays africains sur ce qui se passe? Un article de Rayal Yaoum revient sur ce sujet. La première réaction de colère est venue de l'Afrique du Sud, qui a annoncé qu'il serait nécessaire de présenter cette décision au Conseil exécutif de la Fédération et à son Assemblée générale, ajoutant qu'elle la rejetterait quoi qu'il arrive et ce, dans le cadre de la condamnation des crimes brutaux israéliens contre les Palestiniens. L'ambassadeur Abdullah Al-Achal, ancien ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères, a salué l'Afrique du Sud, qui a rejeté unilatéralement la décision du président de la Commission d'accorder à Israël le statut d'observateur auprès de l'Union africaine, notant que sa déclaration indiquait clairement que la décision violait la charte de l'Union et qu'Israël ne mérite pas ça parce qu'il opprime les Palestiniens et refuse d'établir un État pour eux. Dans le même contexte, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé que cette décision, qui a été prise sans consultation approfondie préalable avec tous les États membres, ne sera pas apte à être mise en œuvre car cette décision est totalement incompatible avec les valeurs, principes et objectifs inscrits dans l'acte constitutif de l'Union africaine. Il a conclu que le battage médiatique autour de cette question, qui n'est rien de plus qu'un non-événement, ne peut nuire aux exigences fondamentales pour parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient, telle qu'elle est consacrée en Afrique et dans l'ensemble de la communauté internationale et comme stipulée par l'initiative de paix arabe, approuvée par le sommet arabe tenu en 2002 à Beyrouth, qui a été pleinement soutenue par l'Union africaine. Pour sa part, la Namibie a publié une déclaration dans laquelle elle rejetait la décision du président de la Commission de l'Union africaine d'accorder le statut d'observateur au sein de l'Union, soulignant qu'Israël n'obtiendrait le statut d'observateur que s'il mettait fin à son occupation de la Palestine et accordait à la Palestinienne leur droit à un État indépendant. Il affirme que la Namibie continue de soutenir les droits des Palestiniens. L'ancien ambassadeur égyptien, Fargalita, de son côté, appréciait la déclaration et la position de l'Afrique du Sud et a conclu que l'étape et la décision du président de la Commission de l'Union africaine peuvent être en retard sur l'Éthiopie et certains autres pays de l'Union africaine, notant que quiconque est resté silencieux sur la décision est considéré comme un participant. Ce qui marque Zoom Afrique dans ses déclarations, c'est en effet cette prise de position ferme des États africains vis-à-vis d'Israël qui, ayant l'amertume expérience de la présence israélienne en Afrique, ne veulent plus jamais représenter cette expérience. Les pays africains, que ce soit ceux du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, de la Corne, du centre ou encore du sud de ce continent, voient très bien ce qui pourra se passer dans leur pays si le régime sioniste s'y implante de façon officielle. Le dernier cas étant l'Éthiopie, où suite aux ingérences israéliennes et le soutien que ce régime a apporté aux rebelles de Tigré, les violences se sont intensifiées et où on a tout fait pour pousser le pays dans la guerre civile, projet déchu puisque le peuple et le premier ministre et son armée ont été beaucoup plus intelligents que l'axe US-Israël. Chose particulièrement prometteuse, c'est la Namibie qui a protesté contre cette adhésion et on sait à quel point les Israéliens exploitent la Bible et les croyances bibliques à travers l'Afrique pour en faire une fenêtre d'infiltration au cœur du continent. Le fait que la Namibie, dont les ressortissants ont payé cher la colonisation occidentale et allemande, participe activement à faire entendre la voix antisioniste au sein de l'Union africaine, ouvre une perspective particulièrement encourageante pour la lutte anticolonialiste au sein du continent, lutte qui renvoie du même principe que la lutte antisioniste. L'axe colonialiste cherche-t-elle à transformer le Burkina Faso ou plutôt les pays du Sahel en une Syrie bis, À travers cette idée de la formation d'une armée de libération qu'elle plaide sous les airs des contestations d'un mouvement baptisé l'Union pour la libération du Burkina Faso? Il semblerait que oui, puisque depuis que Barkhane et Sy n'ont pas réussi à obtenir le résultat qu'ils souhaitaient à travers l'attaque de Solane, cette action néocolonialiste tente le tout pour le tout, afin de dénoncer l'action de l'armée et de faire endosser à celle-ci la responsabilité du terrible massacre de Solane, tandis que les partis proches du gouvernement mettent l'accent sur la nécessité d'étendre cette expérience parfaitement inouïe qu'a été et qui est toujours une assistance populaire à l'armée nationale. Le nouveau scénario visant directement l'armée burkinabé, mais surtout cette force populaire, cette armée asymétrique chargée de protéger les civils, côte à côte avec l'armée nationale et pourquoi pas s'en prendre à la force d'occupation. Au Burkina Faso, 24 heures après leur prise de parole publique, les responsables d'un mouvement qui s'est baptisé l'Union pour la libération du Burkina Faso ont été interpellés par les forces de l'ordre. En conférence de presse, ils avaient lancé un appel au recrutement d'environ 25 000 personnes pour former, disaient-ils, une armée de libération, lit-on sur RFI à ce sujet. C'est le ministère de la Sécurité qui avait annoncé l'interpellation des responsables de l'Union pour la libération du Burkina Faso 24 heures après leur conférence de presse. Selon un responsable du ministère, il s'agissait de savoir leur réelle intention. Ils n'ont aucune reconnaissance légale et la sécurité est du domaine régalien de l'État, insiste ce haut cadre du ministère de la Sécurité. Selon Ousseini Tamboura, le porte-parole du gouvernement, c'est l'État qui organise la participation citoyenne à l'effort de guerre. Finalement, les responsables de l'Union pour la libération du Burkina Faso ont été remis en liberté après leur audition, mais ils doivent se présenter en début de semaine prochaine à la police judiciaire pour la suite de la procédure. Après tout, le clan occidental n'a pas un très bon souvenir des forces populaires, puisqu'au Moyen-Orient, où les Syriens ou encore les Yéménites ont formé des unités de forces populaires, les plans divisionnistes et déstabilisateurs sont tombés à l'eau. Ces dernières années, Ouagadougou a pu démontrer qu'en s'unissant avec le peuple, l'armée nationale pouvait sécuriser le pays et faire face au fléau du terrorisme. Les Burkinabés, en hommes valeureux, seront puisés au tréfonds d'eux-mêmes les armes nécessaires pour une victoire héroïque contre les forces obscurantistes. La voie est tracée. Le projet d'assassinat du président malgache André Rajoelina a été révélé le 21 juillet 2021 par les autorités malgaches. 6 personnes, dont 2 Français qui sont d'anciens officiers, ont été arrêtées la veille dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État pour avoir échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État, indiquait la procureure générale Bertine Razafiavoni. Que se passe-t-il au Madagascar? Qu'est-ce qui dérange tant l'axe colonialiste? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Madagascar, évidemment, c'est l'actualité du moment. Il y a plein de théories sur Madagascar. Ce sont des théories complotistes. Les Africains croient qu'on a essayé de tuer Rajoelina parce qu'il était opposé à la vaccination. C'est évidemment une opinion tout à fait... Moi, j'appelle ça des farfelouteries. Le propre des théories complotistes, c'est qu'elles dissimulent les véritables raisons géopolitiques. Les raisons de la tentative de coup d'État à Madagascar avec l'assassinat du président, c'est purement et simplement la géopolitique. Les choses sur le vaccin n'ont rien à voir. Le deuxième État dont on vient d'essayer d'assassiner le président, c'est la Guinée équatoriale. Et au contraire, Omiagnema Massongo, c'est un grand partisan de la vaccination. Il s'est fait vacciner, sa femme s'est fait vacciner, le vice-président qui est son fils s'est fait vacciner. Ils se sont fait vacciner devant les caméras de la télévision avec des vaccins chinois et ils prônent la vaccination pour la population et pour les Africains. C'est donc pas ça la cause de cette tentative d'assassinat. Qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar? C'est que les Iraniens sont arrivés. On va parler après du golfe de Guinée, mais ils sont également arrivés à l'entrée de l'océan Indien. Jusque-là, l'océan Indien, c'était dans cette partie c'est-à-dire les côtes de l'Afrique, c'était un lac français. Les Français considéraient Madagascar comme leur porte-avions et ils contrôlaient deux positions de puissance. Ce sont les îles Éparses. Ce sont un archipel qui appartenait à Madagascar et qui a été volé lors de sa indépendance au début des années 60. Et la deuxième position de force, c'est Mayotte, dans l'archipel des Comores, dont les Français se sont emparés lors de la décolonisation et dont ils se sont servis d'allure d'une masse. Ils ont tenté à plusieurs fois des coups d'État, notamment avec le fameux mercenaire français Bob Denard, qui a pris le pouvoir à deux reprises dans l'archipel des Comores. À partir du moment où il y a eu des accords militaires qui ont été signés entre le ministre de la Défense de Madagascar et le ministre de la Défense iranien, ces accords, ils ouvrent les ports de Madagascar à la flotte de guerre iranienne, ils neutralisent les Français. Il faut savoir qu'il y a une grande lutte géopolitique pour le contrôle de l'océan Indien. Il oppose d'une part le bloc occidental qui a pris pour champion l'Inde. L'Inde a beau être membre de l'organisation de Shanghai et des BRICS, c'est le maillon faible. À cause de la querelle entre la Chine et l'Inde, qui est une querelle séculaire, fait que l'Inde se détourne militairement dans l'océan Indien des BRICS et du bloc de l'Est, et est allié aux États-Unis, à Israël qui a des accords de défense avec l'Inde, notamment dans le secteur des armements, et les Français. Macron s'est rendu en Inde il y a 2 ans, et là-bas il a conclu des accords militaires précisément maritimes pour l'océan Indien, qui ouvrent les bases françaises dans l'océan Indien et en Afrique à la flotte de guerre indienne. À partir du moment où l'Iran a conclu des accords similaires, cette fois-ci avec Madagascar, il neutralise la France. Ça explique qu'avec précipitation, les Français, ils sont de plus en plus hystériques. Ça se passe comme ça dans beaucoup de pays africains. Ils voient qu'ils perdent leur position dans ce qu'ils considèrent le précaré français. Madagascar, c'est un des fleurons de la France-Afrique. Il y a eu d'ailleurs une guerre à la sortie de 1945, il y a eu une révolte anti-française et les Français ont toujours voulu faire la loi là-bas. Et maintenant, avec l'arrivée de l'Iran, c'est terminé. Mais l'Iran, elle ne se contente pas d'arriver dans l'océan Indien et à Madagascar. La principale cible de l'Iran, c'est l'Afrique centrale et bien entendu le golfe de Guinée. L'Iran, elle a compris qu'il fallait contester la domination des Occidentaux de façon maritime et arriver dans l'océan Indien. Elle s'attaque à une série de pays, pas elle s'attaque dans un sens positif, c'est-à-dire que le but de l'Iran, c'est de servir de renfort à la Russie et de permettre à un certain nombre de pays qui étaient des pays dans l'orbite française de changer de côté. Il y a la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry en 2010, Alpha Condé, c'était l'homme des réseaux américains et français. Il est arrivé au pouvoir avec l'aide de George Soros, qui était son conseiller principal. Et la Guinée-Conakry, c'était devenu le pays qui était le centre de la guerre des mines en Afrique. Depuis quelques années, Alpha Condé, parce que c'est avant tout un patriote africain, il s'est détourné des Occidentaux et il a compris la nocivité des positions occidentales. Lors des dernières élections, il était victime d'une révolution de couleur. Il y a des opposants, en particulier Sélouda Alain Diallo, qui a reçu l'appui des Français et des Américains et qui a même été dénoncé par la CPI parce qu'il a tenté de transformer une révolution de couleur en opération terroriste. Alpha Condé donc a combattu victorieusement cette opération. Il a été suivi par une opération, une révolution de couleur au Bénin contre Talon cette fois-ci. Talon, il a pris position contre la France, notamment pour la restitution des biens culturels africains à la France. Il a pris position contre l'opération de Macron qui voudrait faire de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, projetée le nouveau franc CFA. C'est une opération qui est menée par Macron avec l'aide du roi du Maroc et de Ouattara, le président ivoirien. Talon s'y est opposé Et donc, il était victime d'une révolution de couleurs, ça n'a pas marché. Mais le troisième État le plus spectaculaire, c'est le Sénégal. En 2015, Macky Sall avait été élu avec l'aide de la France et une opération menée par les réseaux de George Soros, notamment par le groupuscule Ian Amar. Mais suite à son alliance avec l'Iran, tout à fait, le Sénégal s'est détourné des Occidentaux. Dans le domaine économique, il participe au corridor anti-sanctions qu'on appelle Téhéran, Caracas au Venezuela, qui passe donc par le Sénégal. C'est un dispositif qui permet à l'Iran et au Sénégal de vendre leur gaz et leur pétrole, notamment en Afrique. Le grand partenaire, donc, c'est le Sénégal. Deuxièmement, le Sénégal est allié à l'Iran dans ce qu'on appelle l'OPEP du gaz. Qu'est-ce que c'est l'OPEP du gaz? C'est le regroupement dans une association des États producteurs de pétrole derrière la Russie, derrière l'Iran et derrière en Afrique la Guinée équatoriale pour que les États producteurs de gaz reprennent le contrôle du marché. L'année passée, l'amiral Coldeville a écrit un livre manifeste qui s'appelle « Amiral » tout simplement et dans lequel il définit ce que doit être le nouvel impérialisme français. Il tient compte du recul de la France au Sahel, en Libye, etc. Et il dit que la France doit se redéployer comme une grande puissance maritime. C'est ce qui vous explique que la France est présente aux côtés des Émiratis dans le Golfe Persique et dans la mer Rouge. Ça vous explique que la France intervient dans la Corne de l'Afrique où elle n'intervenait pas. Ça vous explique que la France met l'accent non plus sur l'Afrique centrale où elle est en perte de vitesse, notamment en Centrafrique, mais met l'accent sur le Golfe de Guinée. Sa cible principale, c'est Malabo. Hier, il y a eu un hélicoptère français qui a violé l'espace aérien de la Guinée équatoriale, un hélicoptère militaire. Il a été intercepté par un avion russe. Ça a été la mauvaise surprise de Macron, c'est que les Russes, avec des nouveaux accords militaires, ils sont déjà présents en Guinée équatoriale. Ils ont intercepté donc cet hélicoptère militaire. L'équipage militaire a été arrêté, il est détenu actuellement à Malabo. Et les Équato-Guinéens, de sources diplomatiques, ce que je vous dis là, disent qu'il s'agissait d'aller frapper le convoi du président équato-guinéen qui se trouve dans la région de Bata sur le continent africain. Vous savez que la Guinée équatoriale, elle est constituée de deux parties. Il y a l'île de Bioko au milieu du golfe de Guinée où est la capitale Malabo. Et il y a la partie, le Rio Mundi, comme il s'appelait du temps des colonies, qui est voisin du Cameroun et du Gabon, sur lequel est la capitale économique Bata, et la deuxième capitale qui a été créée il y a quelques années sur le continent, qui est Mongomo. Le président Biagnéma Massongou, il se trouvait à Mongomo, et donc les Français pensaient, comme ils ont essayé à Madagascar, ils pensaient faire un coup d'État à partir d'un assassinat et de mercenaires et de marmouserie. Il y a des mercenaires qui sont recrutés dans les forêts du Gabon par le général centrafricain Bozizé, qui menace donc la Centrafrique, le Cameroun, mais aussi la Guinée équatoriale. Et donc, les Français, bien entendu, ils réagissent de façon hystérique. L'arrivée de l'Iran, définitivement, elle va marginaliser cet impérialisme français, parce que même redéployé dans l'océan Indien, en mer Rouge ou au Golfe Persique, en ayant non seulement la marine russe, mais la marine iranienne face à eux, les Français, définitivement, c'est une puissance géopolitique secondaire.
Le ministre nigérien du pétrole a déclaré que les travaux de construction du pipeline Niger-Bénin sont bien avancés. Les travaux de construction du pipeline sont bien avancés avec 70 km de terrain déjà mis à disposition, a indiqué Sani Mahamadou, ministre nigérien du pétrole, lors d'une tournée effectuée dans tout le pays sur différentes installations pétrolières du 23 au 25 juillet. Une mission qui s'est achevée par une visite sur les sites d'Agadem et de la société de raffinerie de Zinder. À Agadem, le ministre a évalué les conditions d'exploitation du pétrole et le fonctionnement de la raffinerie de Zinder a aussi été apprécié par le ministre qui a saisi cette occasion pour rencontrer les employés et discuter de leurs conditions de vie et de travail. Rappelons qu'à partir de 2023, le Niger devrait connaître une croissance économique de 10% grâce à la manne pétrolière, d'après les estimations de la Banque mondiale. Le Kenya prévoit d'utiliser le port maritime de Lamu construit par la Chine pour exporter des produits du bétail, a indiqué mercredi un responsable gouvernemental. Hari Kimte, secrétaire principal du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des Coopératives, a dit aux journalistes à Nairobi, la capitale du Kenya, que le principal port du pays, celui de Mombasa, ne dispose pas des installations nécessaires à l'exportation d'animaux vivants. Le port de Lamu est également idéal pour les exportations de bétail car il est plus proche des principales zones de production animale dans le nord-est du pays, a expliqué M. Kimte. Le Kenya a inauguré en mai le premier poste d'amarrage du port de Lamu qui fait partie du corridor de transport port de Lamu, Soudan du Sud, Éthiopie. Le ministre tchadien des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme a remis ce 30 juillet les plans de la ville de N'Djamena au premier ministre Pahimi Padake Albert. C'est une référence de données géographiques. Les plans de la ville de N'Djamena ont été remis ce 30 juillet au premier ministre de transition Pahimi Padake Albert. Les travaux sur les plans ont débuté depuis 2017 et ont été finalisés en 2021. Avec cette remise, le projet d'infrastructure des données spatiales de la ville de N'Djamena et ses environs arrive à son terme. Un projet sur la création d'un référentiel des données géographiques de référence. L'objectif principal du projet est, selon le ministre de Transition, de fournir une connaissance précise du territoire concerné afin de mieux organiser l'occupation des sols pour une meilleure habitation aux exigences et aux normes du développement. Au Gabon, après le parc national de la Lopé en 2007, une deuxième réserve naturelle vient d'être inscrite sur la liste des sites protégés. Une annonce qui réjouit Ali Bongo, le président gabonais. Après l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie de l'Est, l'Afrique centrale entre dans les petits papiers de l'UNESCO. Le parc national de Livindo dans le nord du Gabon a été classé mercredi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après le parc de la Lopé en 2007, il est le deuxième site naturel à être inscrit dans ce petit pays d'Afrique centrale, recouvert à 90% par la forêt et connu pour ses efforts de préservation de son patrimoine naturel.